France Inter. Le 7-10.
Léa Salamé, vous recevez ce matin un journaliste.
Bonjour Robert Namias.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une émission télé, un philosophe et un sentiment, vous seriez qui? Vous seriez quoi?
Une émission de télé, incontestablement, évidemment, c'est très lointain. Mais je crois que ça reste quand même à la fois dans les mémoires. Mmh. 5 colonnes à la une.
J'étais sûr que vous diriez ça.
Ouais, pour une raison simple, c'est qu'il faut se souvenir de ce qu'était l'information dans les années 59-60, sous De Gaulle, et la guerre d'Algérie, et que bien évidemment, elle était totalement soumise au gouvernement. On ne parlait jamais de la guerre d'Algérie, et on parlait peu de l'international. Cinq-Colonnes a vraiment cassé ça courageusement, avec des journalistes remarquables, évidemment, et notamment en ce qui concerne la guerre d'Algérie. Parce que l'international, au fond, c'était pas très gênant pour le gouvernement français. Mmh. L'Algérie, c'était évidemment un problème majeur.
Et ils y sont allés.
Et ils ont appelé ça la guerre d'Algérie. On ne l'appelait pas la guerre d'Algérie. On l'appelait jusqu'en 59-60 les événements d'Algérie.
Un philosophe.
Deux. Deux, parce que j'ai eu la chance tous les deux, d'abord parce que j'ai fait un peu de philosophie.
Oui, vous avez été prof de philo, j'ai vu ça.
Oui, un peu rapidement, mais deux, que j'ai eu la chance de rencontrer. Sartre, je l'ai rencontré un peu vieillissant, au moment de la création de Libération, en 73, mais enfin, on a eu deux, trois rencontres formidables. Et puis j'ai été, moi, biberonné à la philosophie sartrienne, et Jean Kélévitch. Jean Kélévitch, alors que j'ai vraiment aimé, il a été mon prof à la Sorbonne, il avait la chaire de morale et sociologie, enfin de morale, c'était Aron qui avait la sociologie, et j'ai lu tout Jean Kélévitch, il a eu des intuitions de génie, le je ne sais quoi, le presque rien, c'est une intuition de génie, qui traite de l'intuition d'ailleurs, et de l'indicible, et le pardon, bien sûr.
Et si vous étiez un sentiment?
La tendresse.
C'est joli. Donner tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude, écrivait Hérodote. Platon lui disait, la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Les Grecs anciens avaient-ils déjà tout dit sur le pouvoir?
Ils avaient beaucoup dit en tous les cas, et je crois que... Il y a une autre phrase qui est d'une grande banalité, mais qui est très vraie, et qui court à travers...
Votre livre, on va y venir.
Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je crois que c'est très sincèrement, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une réalité que l'on constate à travers l'histoire de la République, et en particulier de la Ve, et en particulier, honnêtement, depuis une cinquantaine d'années. Et je trouve que les choses ne vont pas, il faut le dire, en s'améliorant.
Le pouvoir absolu corrompt absolument.
Ouais, et on est dans des situations, en France et ailleurs, mais en France en particulier, où on frise quand même le pouvoir absolu. Et où les institutions et leur dérive actuelle font qu'on est dans une forme de pouvoir absolu. Mmh. Personne ne peut le nier, sans doute pas même celui qui le tient. Donc, qui même.
Et donc quoi? Il faudrait une réforme des institutions
je ne sais pas,
à vos yeux?
Je suis journaliste, hein, je ne suis pas du tout politique. Ce que je pense en tous les cas, c'est que il faudrait surtout retrouver à la fois un équilibre parlementaire qui n'existe plus depuis longtemps. Nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire. Certains sans doute ne le souhaitent pas. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que tous ceux qui ont dénoncé. Je le laisse entendre dans mon livre. Tous ceux qui ont dénoncé le pouvoir absolu, notamment présidentiel en France, quand ils s'en sont emparés, ont eux-mêmes pratiqué le pouvoir absolument.
Alors comme vous faites des phrases très longues, on va quand même arriver à votre livre. Parce que tout ça, c'était une introduction pour arriver à votre roman. Le pouvoir, la politique, la presse, l'argent, le sexe, la vengeance, il y a tout ça dans votre quatrième roman. Robert Namias, l'affaire Chanteclerc qui paraît à l'Observatoire, un roman à clé, un polar une fois encore, avec un assassinat au cœur du livre. Vous qui avez été une grande figure du journalisme à Europe 1, vous qui avez dirigé l'info TF1 pendant des années, vous venger maintenant dans vos livres en tuant certaines personnes. C'est une catharsis ?
Non, pas du tout. Je ne me venge de rien, d'abord parce que je n'ai aucun esprit de vengeance, c'est pas du tout ma nature. J'essaye de dire simplement ce qui est, et de raconter, au fond, notre société et ses dérives à travers des personnages, qui sont effectivement des personnages à clé, je vous reconnais, bien sûr. Mais c'est notre société depuis les années, fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je décris, ce sont plutôt ses dérives, mais c'est pas du tout une vengeance, non.
Alors l'histoire, c'est une fresque sur plus de 50 ans entre quatre amis qui ont grandi à La Rochelle, ils se sont rencontrés au lycée, ils sont ambitieux, très ambitieux, et ils vont chacun faire carrière, comme on dit, à Paris. Olivier devient un grand reporter télé adulé des Français. Charles, un acteur très populaire. Benoît, un ministre de droite, de gauche ou du centre, selon l'heure et le sens du vent, écrivez-vous. Enfin, Rodolphe, le narrateur, est un écrivain qui enchaîne les best-sellers. Bref, ils sont potes, tout va à peu près bien dans leur vie, sauf qu'Olivier, le journaliste star, est retrouvé mort et on apprend vite que c'est un assassinat et qu'il est accusé de viol par plusieurs femmes. Leur amitié survivra-t-elle à ces révélations ? Je le disais, c'est un livre sur l'ambition, le pouvoir, sur la masculinité après MeToo. Mais c'est aussi un livre sur l'amitié qui traverse les années, qui se distend parfois quand il ne reste plus que les souvenirs du passé et plus grand chose au fond en commun du présent. C'est aussi un livre sur l'amitié avant d'en venir au cœur du sujet qui est effectivement l'affaire MeToo et la masculinité.
Absolument, c'est un livre sur l'amitié parce que au fond, et les amitiés d'enfance surtout, parce que les quatre dont vous avez parlé, ce sont quatre très ambitieux, qui ont en commun cette ambition, puis qui ont en commun beaucoup de choses, beaucoup de combats, notamment de combats politiques dans leur jeunesse, et puis qui, au fil des années, savent très bien que les uns s'enfoncent dans des compromis, d'autres dans des mensonges, les troisièmes dans des manipulations, mais finalement se pardonnent tout. Et moi j'ai beaucoup réfléchi à cela et à l'amitié d'enfance. Je n'ai plus beaucoup d'amis d'enfance, j'en ai plus d'ailleurs. Et j'en ai eu. Et en fait, je trouve que l'amitié, finalement, pardonne plus que l'amour. À la limite, en amour, on est plus exigeant qu'en amitié. Et en amitié, on accepte beaucoup de faux-semblants, beaucoup de mensonges.
Et c'est un problème de trop pardonner en amitié ?
Oui. Bien sûr.
C'est ce que dit le livre.
Ça débouche sur la situation du livre, oui, absolument. Enfin, qui est dit dans le livre.
Au cœur du livre, il y a donc l'homme de plus de 50 ans percuté par MeToo. Vous essayez de comprendre comment chacun de ces trois hommes va être ébranlé à l'annonce, bon, évidemment, de la mort de leur copain, mais surtout de toutes ces femmes qu'il aurait violées ou agressées sexuellement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tous profondément ébranlés par ces annonces, mais qu'ils réagissent tous différemment. Et le narrateur s'engueule notamment avec ses deux amis. Lui croit à la culpabilité d'Olivier, il croit les femmes qui disent qu'elles ont été violées. Les autres lui rétorquent « Alors toi aussi, tu t'y mets, mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi ? Les commissariats croulent sous les plaintes de ces femmes qui veulent se faire un politique, un artiste, un journaliste ou n'importe qui d'un peu connu. MeToo, balance ton port, on n'a rien trouvé de mieux pour régler leur compte au mec. Si des gens comme toi entrent dans leur jeu, on est foutu. » C'est l'histoire des hommes qui sont un peu foutus.
Oui, et puis c'est une histoire que j'ai approchée de très près, hein, donc c'est pas la peine de s'en cacher.
Ah bah alors on y va, donc c'est effectivement, évidemment, oui. De la première à la dernière page du livre, bien il sûr. Y a la figure de Patrick Poivre d'Arvor, dont vous avez été le rédacteur en chef, dont vous avez été le patron, et dont vous étiez le patron au moment où il a été démis de ses fonctions.
Absolument.
Donc ce livre, c'est bien votre manière d'expurger, de régler votre compte à l'affaire PPDA.
Non, je ne règle pas mon compte avec... L'histoire de PPDA, que je trouve absolument abominable et tragique, et en même temps, encore une fois, parce que moi je l'ai dit il y a deux ans, donc je le dirai là très brièvement, mais on n'a aucune raison, je dirais même on a toutes les raisons de croire les témoignages qu'on a entendus, qu'on a lus et qu'on continue d'entendre. Je m'étonne d'ailleurs que la seule façon de régler le problème de Poivre, faut le dire, c'est le procès. Hein, bon, moi je m'étonne beaucoup.
Vous savez qu'il y avait il y a la prescription,
etc. Bon, enfin, il y a une trentaine de femmes.
Il y a quand même encore
matière, ne serait-ce que parce qu'il y a un dossier qui n'est pas prescrit, et ensuite parce que à cette occasion, il pourrait y avoir de nombreux témoignages à la barre. Donc, moi, je pense que s'il doit y avoir une vérité, elle ne peut éclater que dans une salle d'audience. Mais au-delà de ça. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé au moment de l'éclatement de cette affaire, c'est que, parce que ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi en me disant, mais enfin, je vois tous ces gens qui disent, tout le monde savait, mais c'est bon, ouais, personne ne savait, c'est absolument fou.
Vous ne saviez pas.
Mais bien sûr que non.
Vous enfin, n'aviez non, pas attendez, de soupçons voyons. Sur le rapport pathologique de PPDA aux femmes?
Mais bien sûr, non, pathologique, non. Le rapport aux femmes, on l'a dit, donc on va passer très vite, mais enfin, le côté drague, séduction mielleuse, etc., c'est bien sûr, tout le monde le voyait. Mais on ne parle pas de ça. On parle de viol. On parle d'agressions sexuelles les plus dégueulasses. Bon, voilà. Ça, non. Alors, est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas. Et moi, j'ai été très agacé par l'idée que tout le monde savait. Non. Encore une fois, non. Mais par contre, si cela est vrai, c'est pour ça. Ça a été le point de départ de mon livre. C'est pas du tout une vengeance. C'est effectivement l'imposture, finalement. C'est ces gens très nombreux, et de ce point de vue-là, celui que l'on cite en est un exemple, c'est cette volonté absolue, permanente, de se créer un personnage, de paraître de ce que l'on n'est pas.
Été abusé, vous, par cette imposture, puisque vous employez le mot ?
Non, je n'ai pas été abusé par l'imposture du personnage en tant que tel. J'ai été totalement stupéfait, encore une fois, par ce qui est aujourd'hui en question. Mais ce n'est pas la même chose.
Vous les croyez, ces femmes, aujourd'hui ?
Oui, totalement. Ah oui, totalement. Alors, peu importe, ce sont des témoignages extrêmement différents, dans des situations extrêmement diverses, pas seulement d'ailleurs dans ce fameux bureau et sinistre bureau de TF1 aujourd'hui, mais la vérité c'est que bien sûr je les crois. Bon, enfin, comment voulez-vous ne pas les croire, c'est pas possible. Il y en a une soixantaine. Je ne vois pas comment elles se sont réunies. Elles se seraient réunies un jour dans un bureau, dans une salle de réunion, en disant « Bon, maintenant on va se faire poivre ». Bon, c'est pas possible.
Donc ce livre, c'est un roman à clé, mais... Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, non, des personnages, il y a l'homme politique aussi, où on devine qui... Je ne sais pas si vous mettrez un mot ou un nom sur...
Il y en a plusieurs, mais je crois aussi à un personnage qui est un président de la République, qui s'appelle Marchetti dans mon roman, et qui est un mélange, je peux le dire, qui est vraiment un mélange à la fois de Mélenchon, beaucoup de Mélenchon.
Ouais.
Qui pour moi est une imposture politique, pour la gauche. Il y a du Sarkozy.
C'est ce que j'allais vous dire, moi je voyais
beaucoup
plutôt
de Sarkozy.
Ouais.
Oui, bon, si vous lisez bien. Voilà, donc, et puis même, de manière très lointaine, un peu de Mitterrand, qui quand même vient de l'extrême droite, même si c'est lointain, d'avant-guerre, etc., pour finir comme l'homme de gauche que l'on sait. Mais donc, et parce que c'est ça, parce que j'ai voulu dans ce roman, si vous voulez, au-delà du cas dont on parlait tout à l'heure, j'ai voulu surtout traiter au fond de tous ces gens qui s'arrogent la parole, qui prennent la parole, qui s'emparent des micros, qui s'emparent des caméras, et qui trichent en permanence, et qui mentent en permanence, et au fond qui occultent la voix de tous ceux, très très nombreux, qui, eux, croient à ce qu'ils font, sont vraiment des... Il y a dans mon livre, ce sont deux femmes d'ailleurs, la femme du narrateur et
avocate.
Sa fille, effectivement, qui sont l'honneur de l'humanité dans ce livre, si j'ose dire. Bon, voilà.
Vous parlez de Mitterrand, comme il nous a quittés cette semaine, j'avais envie de vous faire entendre le pivot politique, le pivot qui avait reçu Solzhenitsyn.
Je parlais de l'autre Mitterrand, en l'occurrence de François.
Hein, Ben oui, c'est François. Je vais vous faire écouter François Mitterrand chez Pivot. J'avais bien compris. Non, parce que j'avais envie de faire réagir évidemment sur la disparition de Bernard Pivot, Robert Damias. Et donc, le Solzhenitsyn qu'il avait reçu, les nouveaux philosophes, et puis François Mitterrand qui reçoit en 1978, et dont Michel Cotta nous disait hier que c'était la première fois que Mitterrand était à l'aise devant une caméra, c'était devant Pivot. Avant, il était coincé, il l'a décoincé. Écoutez.
Alors, tout le monde sait, je crois que vos adversaires politiques le reconnaissent aussi, que vous écrivez très bien. Mais j'ai eu la curiosité de mettre le nez dans des ouvrages assez anciens de vous. Et je me suis aperçu que vous écrivez de mieux en mieux. Alors je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ?
D'abord, écrire bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, que j'écrive de mieux en mieux, c'est vous qui le dites.
Oui, non, mais je prends ça très sur moi. Hein.
Enfin, je pense que si c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est parce que je suis de plus en plus libre. À compter du moment où j'écris ce que j'ai envie d'écrire, sans tenir compte de... autrement que de la bienséance, ou des intérêts généraux dont je suis seul juge, à partir de là, je pense que ce que j'écris s'en ressent, quoi. C'est plus libre, disons que c'est plus libre, c'est meilleur.
Quel est votre moment préféré d'Apostrophe ou de Bouillon de Culture, de Pivot ?
Il y en a eu beaucoup, mais celui-ci, moi je m'en souviens très très bien. Et je m'en souviens d'autant plus que ce qu'il vient de dire là, alors toute proportion gardée bien sûr, c'est exactement ce que j'éprouve. C'est-à-dire qu'au fond, depuis 6 ans, j'ai complètement arrêté ce métier, de manière active en tous les cas, même si journaliste un jour, journaliste toujours. Mmh. Et l'écriture, c'est une vraie liberté, la preuve. Voilà. C'est une vraie liberté.
Vous dites tout ce que vous ne pouvez pas, tout ce que vous
mais
ne pouviez pas dire.
C'est même pas qu'on ne peut pas le dire, c'est que de toute façon, on ne peut pas prendre le temps de le dire, on ne peut pas prendre le temps de le mettre en forme, de l'exprimer. Et donc, moi, cette recherche de liberté qui a toujours été vraiment le sel de ma vie, je la trouve maintenant dans l'écriture.
Pour finir, les impromptus, Robert Namias, vous répondez très rapidement aux petites questions, et sans trop réfléchir aux petites questions que je vous pose. Les personnages, le journaliste, le politique, l'écrivain, l'acteur, vous en avez beaucoup fréquenté. Mmh. Qui a le plus gros égo ?
Ah.
Le politique ou le journaliste ?
Ni politique ni journaliste, les acteurs quand même.
La télé ou la radio ?
À la radio.
Le Figaro ou Libération ?
Je dirais Joker, mais j'aime bien Libé.
Comme patron de TF1, votre plus grande fierté, votre plus grand regret, en un mot.
Alors, en un mot, ma plus grande fierté, c'est une vraie réalité, c'est la rédaction, vraiment, cette équipe extraordinaire. Mon plus grand regret, c'est de l'avoir quitté.
Vous regardez toujours les 20h ?
Non.
Je ne vous demande pas entre le 20h de TF1 ou le 20h de France 2, ni l'un ni l'autre. C'est que les chaînes d'info ?
Oui.
Que LCI ?
Oui. Non, c'est pas vrai d'ailleurs, je regarde les autres aussi. Non, je ne regarde pas CNews.
Vous ne regardez pas CNews ?
Non.
Vous auriez aimé présenter un 20h ?
Non, pas du tout.
Anne Sinclair ou Christine Ockrent ?
Anne Sinclair.
Vous avez été le premier à mettre un présentateur noir aux 20h de TF1, c'était Harry Roselmack. Vous trouvez que la diversité, ça avance à la télé ou pas assez ?
Pas vraiment, pas suffisamment.
Pas vraiment. Twitter ou Instagram ?
Twitter, c'est souvent dégueulasse, mais en même temps, parfois, on y trouve des choses intéressantes. Instagram, c'est différent.
Mitterrand ou Chirac ?
Mitterrand.
Que reste-t-il du 68-art que vous étiez ?
Le goût pour la liberté.
Qu'est-ce qui vous indigne encore ?
Tout ce qui va contre la liberté, et en particulier la liberté d'expression aujourd'hui.
Elle est menacée ?
Un peu, oui.
Liberté, égalité, fraternité, je ne vous demande pas ce que vous choisissez ? Liberté ?
Oui.
Venez de le dire. Et Dieu dans tout ça, la question Jacques Chancel, pour terminer.
Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas rencontré.
Le livre s'appelle L'affaire Chanteclerc, trahison, gloire, imposture et l'amitié dans tout ça. Ça, c'est le sous-titre, enfin le bandeau de l'éditeur. C'est aux éditions de l'Observatoire. On a compris que vous faites peut-être le deuil de votre relation avec Patrick Poivre d'Arvor dans ce livre-là et beaucoup d'autres choses.
Oui, beaucoup d'autres choses.
Merci Robert Namias d'avoir été avec nous.
Et merci.
Belle journée.